Dialogue sur la mort. Une émission proposée par Christian de Cacret.
Amis auditeurs des dialogues sur la mort et donc sur la vie, bonjour. Notre invité aujourd'hui est un acteur et un réformateur de l'univers des maisons de retraite. Il agit en effet à travers une alliance d'EHPAD associatifs, non lucratifs et d'inspiration chrétienne, appelée l'Alliance Siméon. Et c'est dans ce cadre, c'est-à-dire au sein de 135 établissements adhérents, 11 000 résidents, qu'il développe ce qui constitue une innovation dont il est venu nous parler, à savoir l'accompagnement spirituel. Jean-Bernard Prime, bonjour.
Bonjour.
Alors, quels sont les constats qui ont amené à formuler une telle proposition d'un accompagnement spirituel aux résidents qui le souhaitent, j'imagine, des EHPAD de l'Alliance Siméon?
Alors, un double constat. D'une part, que le soin spirituel est un soin à part entière. Dans les années 60, et les anglo-saxons en particulier, ont développé le total pain, la souffrance globale, en disant qu'il y avait quatre types de souffrance et donc quatre types de soins. La souffrance physique, qu'on imagine bien, la souffrance psychologique, la souffrance sociale, l'isolement souvent, et la souffrance psychologique. Aujourd'hui, la Haute Autorité de Santé en France définit bien cette nécessité d'un soin spirituel en s'abstenant bien de le définir, et même l'OMS définit cette nécessité d'un soin spirituel. Le problème, c'est que quand on parle de soins spirituels dans notre pays laïque, tout de suite, on parle de soins de religion, de culte, etc. Et donc, tout de suite, ça fait peur aux gens. Donc, moi, j'aime bien aussi parler, parfois, de soins existentiels.
D'accord.
Pour rassurer tout le monde et éviter de penser que nous allons forcément faire du prosélytisme si nous produisons du soin spirituel.
On va être très concret pour que les auditeurs comprennent de quoi on parle. Comment formuleriez-vous la proposition? Alors, bien sûr que c'est de façon très ramassée, mais enfin, en gros, qu'est-ce qu'on va dire aux gens pour qu'ils puissent bénéficier de cet accompagnement? À partir de quelles remarques ils puissent faire ou questionnaires, je ne sais. Comment est formulée la proposition?
La proposition est formulée très simplement en passant dans les chambres. Mmh. Nos animateurs ou nos animatrices passent dans les chambres et dans un premier temps sont dans une relation simplement humaine vont essayer d'aider les gens à trouver un sens à ce qu'ils vivent. Vous savez, tenir la main d'une personne âgée, la réconforter, lui redonner un peu d'espérance. Voilà, c'est déjà important. L'aider à trouver une paix intérieure, les apaiser, essayer de les apaiser en leur permettant de se réconcilier avec eux-mêmes, avec des enfants, avec des amis. Voilà, c'est aussi lutter contre le sentiment d'abandon. On a beaucoup de gens qui sont seuls. Vous savez, une animatrice me racontait récemment qu'elle est passée dans une chambre et la dame lui disait « Tout va bien, moi je vais bien, elle était pimpante. » Et puis, petit à petit, la carapace se scellait. Et cette dame me dit « Vous savez, je n'ai même pas une épaule sur laquelle pleurer. » Et elle lui a dit « Voulez-vous que je vous prenne dans mes bras ?» La dame a dit « Oui, elle a pu pleurer, c'est pour l'épaule de notre animatrice. » Et tout s'est arrêté là. Il n'y a pas eu d'acte culturel, religieux, etc. Et puis, il y a d'autres fois, où on a des gens qui font le saut de la foi, comme je viens de dire, et bien cela, on va les accompagner dans leur de cheminement religieux, dans leur cheminement intérieur. Alors, s'ils sont chrétiens, nous-mêmes étant chrétiens et l'association ayant des animateurs qui font la formation d'aumôniers, nous les accompagnons sur leur chemin. Et puis, s'ils ne sont pas chrétiens, eh bien, on est en relation avec des membres des ministres d'autres cultes pour leur permettre de vivre leur cheminement religieux.
Vous avez évoqué en introduction la total pain, une expression bien anglo-saxonne. Pour autant, nous, souffrance spirituelle, c'est pas exactement dans notre vocabulaire habituel. Alors, vous venez de parler de solitude, de besoin d'être accompagné. Comment vous la définiriez, cette souffrance spirituelle?
C'est l'incompréhension. Mm-hmm. Quand on est malade, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu?
D'accord, la justice.
Pourquoi mes enfants ne viennent plus me voir? Voilà, c'est aussi trouver, ne pas avoir de sens à ce qu'on vit, ne pas trouver l'histoire de sa vie, un fil conducteur, et même si on est en dehors de tout aspect religieux, est-ce que ma vie a été en relation avec mes valeurs ? Évidemment, pas toujours. Et donc, tout ça, il faut le vivre, il faut l'assumer, il faut pouvoir en parler.
Quel fruit constatez-vous de cet accompagnement ? Est-ce qu'il y a des choses que vous pourriez évoquer là devant ce micro pour attester du bien fondé de cet accompagnement spirituel ?
C'est amusant votre question parce que évidemment, parfois les soignants ou les cadres infirmiers nous regardent d'un œil méfiant. Et moi, ce que je dis, c'est aux animateurs, aux animatrices, posez-leur la question : est-ce que le résident va mieux après votre passage ? Ou pas. Et dans 95% des cas, ils nous disent oui, il va mieux après votre passage. Donc voilà, c'est déjà le premier constat. Le résident est apaisé, il va mieux. Et puis souvent, on a eu des belles histoires aussi de réconciliation avec des enfants. Une dame, par exemple, nous disait, alors là, c'était sur un plan beaucoup plus spirituel, mais nous disait qu'elle voulait mourir, qu'elle priait le Seigneur tous les jours. Pour mourir, pour être appelé auprès du Seigneur, etc. Et l'animatrice lui dit, vous êtes vraiment égoïste, vous ne priez que pour vous, elle l'a bousculé volontairement, vous ne priez que pour vous, moi j'ai dans ma paroisse un jeune monsieur qui a 33 ans, il vient d'avoir un enfant et sa femme est morte en couche, et bien vous allez prier pour ce monsieur et pour cet enfant plutôt que de prier pour vous. Et elle la laisse là-dessus, elle passe la semaine suivante la voir, et elle était rayonnante en disant « Ah, mais vous ne pouvez pas savoir ce que ça m'a fait comme bien de prier pour d'autres que pour moi. » Voilà.
Merci pour cette histoire, ouais, elle est belle.
C'est une belle histoire. Ouais. Simplement, c'est voilà, je sors de moi-même, je me retourne. Moi, j'aime à dire aussi que le sentiment d'utilité sociale est fondamental et fait partie du soin spirituel. Quand j'ai le sentiment de ne plus servir à rien sur cette terre, je me demande bien ce que j'y fais. Eh bien, on peut, alors il y a cette histoire de prier pour les autres, créer une véritable chaîne de prière, et puis c'est aussi l'idée de faire des choses ensemble, et des choses qu'on a pu faire dans différentes associations, ce qu'on appelle des soupes, c'est-à-dire on va récolter des légumes auprès d'un MAP ou d'autres, les personnes âgées vont éplucher les légumes, évidemment, l'épluchage d'une carotte va prendre une heure, mais peu importe. On se raconte les soupes d'antan, comment maman le faisait, comment t'étais à la ferme, comment ça s'était, etc. Et puis, cette soupe est faite par la cuisine et elle est distribuée ensuite à des sans-abri. Voilà. Donc là, on a des personnes qui ont 90 ans, 95 ans et qui se sentent encore utiles aux autres. Et ça, c'est un soin spirituel qui est important. Voilà. On n'est pas dans des choses très, très grandioses. Et simplement, je sers encore à quelque chose sur cette terre.
Vous avez évoqué cette laïcité un peu rigide qui s'opposerait à une telle démarche. Est-ce que cet accompagnement spirituel est envisageable, voire envisagé, hors d'un réseau d'inspiration chrétienne comme celui auquel vous appartenez ?
Oui, il y a des mouvements qui viennent surtout du Québec, qui viennent de... ils appellent ça des intervenants en soins spirituels, où c'est des gens qui ne sont pas liés à un culte et qui viennent faire ce soutien spirituel. Nous, on a choisi d'avoir une autre démarche et d'accompagner plus loin les gens. On va faire ce travail d'intervenant spirituel pour des gens qui n'ont pas la foi, mais on va aussi accompagner dans leur cheminement religieux, chrétien, voilà, parce que c'est quand même très difficile. Les intervenants en soins spirituels au Québec ou en Suisse vont passer le relais, s'il y a une demande de sacrement, c'est le relais à un ministre du culte. Mais la relation ne s'est pas créée. C'est compliqué pour le ministre du culte d'arriver, de distribuer un sacrement, de repartir, une relation préalable, je vais dire d'approche, d'apprivoisement se soit faite avant. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix d'accompagner et de faire le saut de la foi avec ce divers.
Jean-Bernard Prime, vous arrivez... pratiquement, n'est-ce pas, au terme de votre vie professionnelle riche, et notamment cette longue expérience dans l'univers de la gériatrie et de l'accueil des personnes âgées. Quel regard portez-vous, avec le recul de ces années, sur la façon dont nous accompagnons les personnes âgées dans notre pays ?
Un regard sévère, parce qu'on ne valorise pas assez leur, leur expérience, on ne valorise pas assez leur histoire de vie et les conditions dans lesquelles les EHPAD associatifs en particulier sont traités aujourd'hui sont pas dignes, puisque nous avons des EHPAD qui sont dans des situations exsangues, et en particulier les associations d'inspiration chrétienne sont dans des situations financières dramatiques, et s'il ne se passe pas quelque chose rapidement, elles disparaîtront à moyen terme. Et donc là, on a une véritable alerte à avoir, parce que si plus personne ne porte ce message, c'est grave. Finalement, dans les EHPAD publics, ou qui dépendent d'hôpitaux publics, il y a des aumôneries qui sont issues de la loi de 1905, alors que, et c'était une des origines, et on a dévié tout à l'heure dans notre conversation, mais c'était une des origines de l'Alliance Siméon, c'était que dans les EHPAD congréganistes, quand les sœurs disparaissaient, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien parce que, et sans être sévère avec personne, mais on connaît tous le clergé régulier et le clergé séculier, nos sœurs n'avaient pas toujours envie de se rapprocher des diocèses, et donc on s'est retrouvé avec des EHPAD où il n'y avait plus du tout de présence religieuse dans l'EHPAD, alors que c'est des religieuses qui l'avaient fondée. Donc voilà, c'est aussi ça qui nous a motivés face au vide, de ne pas laisser ce vide.
Merci Jean-Bernard Prime pour cette alerte et ce regard porté sur cet univers des EHPAD. Merci beaucoup.
Nous continuons nos programmes avec Halte spirituelle, avec Madeleine Vatel.
La culpabilité accompagne souvent la mort de nos proches. Que nous dit l'espérance d'une foi au Christ ? À l'occasion de la Toussaint et du jour où nous faisons mémoire de nos morts, le père Paul Denisot répond à nos questions. A tout de suite.
Sur scène, comme on prend le dernier train. Même les soirs de drame, il faut trouver la flamme qu'il faut pour toucher les femmes qui me tendent les mains, qui me crient qu'elles m'aiment et dont je ne sais rien. Mes chagrins, et je dis qu'elles rêvent, mais ça leur fait du bien. À coups de poing dans l'âme, j'ai trouvé la trame qu'il faut pour mourir célèbre. Il ne faut rien emporter. Que ce que les autres n'ont pas voulu garder.